Bon, évidemment, on parle de l'histoire du journaliste Antoine Trépanier de Radio-Canada qui a été arrêté cette semaine par la police de Gatineau. Puis on en parle ici, mais avec les circonstances de l'arrestation, c'est une histoire qui fait vraiment le tour du Québec aujourd'hui et même qu'on en parle là, un petit peu partout ailleurs au Canada. Donc, il y a eu conférence de presse, finalement, de la police de Gatineau. Une longue conférence de presse cet après-midi. Éric Charron qui était sur place. Salut, Éric.
Bonjour.
Mario Harel avait pas le choix, là.
Bien, il y avait le choix, mais je dirais qu'il a fait le bon choix. Parce que de dévoiler ce communiqué-là hier, puis ensuite de ça, dire qu'on fera plus de commentaires, c'est laisser la marmite bouillir tout seul, si vous me prêtez l'expression.
Communiqué dans lequel on disait tout et rien en même temps, là, c'était vraiment très général.
Oui, mais en tout cas, on disait que la plainte de la plaignante avait été jugée crédible, puis on utilisait ça pour justifier l'arrestation rapide. Donc là, dans les 24 heures, on a d'abord dit qu'il n'y aurait pas plus de commentaires de la part de la police, pour ensuite de ça, nous sortir le chef de police, Mario Harel, pour venir tamiser un peu cette tempête, parce qu'on le sait, ça n'a pas juste fait réagir chez nous, ça a fait réagir partout en province.
Et lui, il est président de l'Association canadienne des chefs de police.
Peut-être un devoir de représentation à ce niveau-là aussi, démontrer un peu de leadership pour gérer la crise dans son propre service de police. Puis une des questions qui est revenue très, très souvent pendant le point de presse, c'est est-ce que la police aurait pu ne pas intervenir? Est-ce que le policier qui a pris la déposition, présumément de Mme Dubé, aurait pu utiliser son pouvoir discrétionnaire pour pas aller de l'avant? Le chef Harel a confirmé que oui.
Évidemment, on a accès à plein d'informations lorsqu'une personne vient déposer plainte. Est-ce que c'est la première fois qu'elle dépose une plainte au service de police ou c'est la 35e fois qu'on dépose une plainte, exemple, contre son voisin, etc.? Et là, ça peut allumer certains feux jaunes aux policiers, dire « Oh, est-ce que j'ai des raisons de croire qu'il y a vraiment eu une infraction qui a été commise? » Ou bien « Hum, j'ai peut-être des doutes, puis on va pousser un peu plus loin la situation. »
Mais Éric, entre ne pas intervenir et intervenir aussi rapidement, c'est clair qu'il n'y a pas eu d'enquête approfondie avant de passer à l'arrestation du journaliste en question. Comment on a justifié cette urgence d'agir?
Évidemment, on ne voulait pas parler de l'enquête en particulier, comme c'est toujours le cas dans ces dossiers judiciarisés. Mais on nous a laissé entendre que, dans des cas de façon très générale, si les policiers ressentent une urgence d'agir pour une raison ou pour une autre, ça voudrait dire que Mme Dubé, ou en tout cas la plaignante, aurait convaincu l'officier en charge à ce moment-là que c'était une question de sécurité d'agir maintenant. Voilà pourquoi tout ça, la plainte et l'arrestation, auraient été faits mardi dernier, parce que selon le policier qui a pris la déposition, fallait agir maintenant.
Si, en général, on a devant nous un cas d'harcèlement, de menace, d'intimidation, qu'on a une victime qui a peur pour toutes sortes de raisons et qu'on évalue ça, qu'on doit agir immédiatement, bien, on va le faire agir immédiatement, puis on va le faire en appliquant le code criminel.
Donc, elle disait qu'elle avait peur. On l'a cru.
Mais attention, Louis-Philippe, parce que là, il parle vraiment d'un cas général. Fait que oui, on peut présumer ça d'après l'information qu'il nous dit, parce que évidemment, il y avait urgence d'agir puisqu'ils ont agi de façon urgente.
Ben c'est ça. Visiblement, on l'a cru, Éric. Ouais. Mais si c'était une fausse déclaration?
La plaignante risque des sanctions. On écoute encore une fois Mario Harel.
Et si un plaignant ou une victime nous donne de mauvaises informations, de la fausse information, les personnes sont susceptibles d'accusations criminelles, de méfaits publics, d'entrave au travail d'un policier.
J'en parlais en début d'émission, Éric. Le monde a changé depuis des mouvements comme moi aussi. Et on peut penser que le travail des policiers aussi a changé.
Puis, bien honnêtement, on s'en parlait un peu plus tôt aujourd'hui, toi et moi, dans les couloirs, puis tu me disais, est-ce que le mouvement, moi aussi, a influencé d'une façon ou d'une autre l'approche des policiers? Puis à ce moment-là, j'étais un peu dubitatif. Je me disais, ben jamais qu'ils vont nous avouer ça.
Ouais, j'ai vu ça dans ta face quand je t'ai dit ça ce matin.
Ma face a changé au point de presse.
Particulièrement depuis un certain temps, avec tous les mouvements au niveau des femmes qui portent plainte, etc. Nous, on n'a pas jugé du passé d'une femme ou d'une personne, d'une victime. Lorsqu'une personne vient porter plainte, le devoir du policier, c'est d'abord de la croire, de prendre sa plainte, de documenter la plainte. Et après ça, le policier récupère les éléments d'un dossier et puis on soumet à la couronne. Et la couronne, à ce moment-là, va juger des éléments qui sont dans le dossier et d'autoriser ou non une plainte.
Le dossier a été soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales ce matin. Reste à voir si les accusations seront déposées. dans un cas comme dans l'autre, parce que oui, évidemment, il y a le journaliste qui a été arrêté, mais il y a aussi la plaignante qui, selon le cas, selon l'enquête, pourrait faire face à des accusations d'entrave au travail des policiers et de méfaits, si on se rend compte qu'elle a menti aux policiers au moment de faire sa plainte et aussi de possiblement convaincre d'agir maintenant puisque c'était un enjeu de sécurité. En tout cas, c'est la procédure d'usage. Quand on est convaincu que l'enjeu de sécurité est imminent, il faut agir maintenant. C'est ce qui se serait produit dans le cas qui nous occupe. Il y a l'enquête qui se poursuit et on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs. Ouais. Ça va revenir la semaine prochaine, à moins que je me trompe.
Merci beaucoup, Éric. J'ai parlé à plusieurs personnes aujourd'hui, là, hors d'onde, du milieu policier, du milieu judiciaire également. À première vue, il y a comme... Puis là, je parle pas des journalistes, là. Des gens qui travaillent dans le milieu judiciaire et policier, il y en a beaucoup qui me disent qu'à première vue, on n'a pas tous les détails de la preuve. Il y a probablement eu une certaine bavure policière dans ce dossier-là, mais je me garde un petit gêne parce que on va voir la suite des choses. Il y a peut-être des choses qu'on ne nous dit pas du côté de la police qui feraient en sorte qu'on pensait qu'il y avait effectivement urgence d'agir dans le dossier. Ça, c'est de un. De deux, donc elle, directrice générale de l'organisme Grand Frère et Grande Sœur de l'Outaouais. Et le reportage de Radio-Canada, qui est sorti, soit dit en passant, démontre, avec un document de cour à l'appui, qu'elle s'est faussement fait passer pour une avocate. Vous comprenez que c'est pas très bon pour sa réputation et la réputation de l'organisme. L'organisme ne va pas réagir aujourd'hui, mais demain, il y a une assemblée spéciale du conseil d'administration et on nous dit qu'il y aura une conférence de presse en début de semaine prochaine.